Chapitre 48. L'aube rosissait le ruban glacé du fleuve et les pics translucides qui enguirlandaient les branches des arbres. Les feuilles des plantes grimpantes, la seule espèce végétale apparemment capable de résister au vent du nord qui soufflait sans discontinuer entre les ruines, recouvraient peu à peu leur vert éclatant, insolite. La ville de l'ancien temps se reconstituait en filigrane sous la lumière encore pâle. Çà et là se devinaient les tracés des rues, les agencements des bâtiments, les piles d'un pont dressés au-dessus du fil figé de la Loire comme des clochers d'église engloutis. Tours n'était sûrement pas la plus grande agglomération d'Europe. Les ruines de Prague, de Berlin, de Lyon, pour ne citer que celles-là, étaient beaucoup plus vastes, beaucoup plus complexes. Mais elle avait sans doute abrité davantage d'âmes que n'en avait jamais compté l'ensemble des peuples nomades. Les chauffeurs trompaient leur impatience en se passant les thermos où fumaient les dernières gouttes de kawa, trop énervés désormais pour aller s'allonger sur leur couchette. Pendant que leurs passagers dormaient dans les voitures, ils attendaient le retour des chiens qui s'étaient éclipsés comme des ombres juste après l'intervention de Solman. Le donneur avait estimé le combat entre les Slangs et les Solbos perdu d'avance et avait jugé préférable de confier à l'ange et à sa meute la tâche de nettoyer les abords de la réserve. « Des chiens contre des Solbos !» avait objecté Moram. « Des crocs contre des putains de carcasses métalliques !»« Ce ne sont pas des chiens ordinaires !» avait répondu Solman. Il avait eu l'impression de se présenter nu devant eux, avec ses faiblesses exhibées, saignant comme des blessures. Le regard étrangement tendre de Wolf l'avait apaisé avec la douceur d'un baume. « Admettons qu'il soit plus costaud que la moyenne, il reste des animaux !» avait avancé un chauffeur. « Qui peut demander à des animaux de prendre ce genre d'initiative ?»« Khadija !» avait répondu Solman. « Elle sait s'en faire obéir ?»« Comment ? Elle ne parle pas !» Elle utilise une forme de langage qui nous est inconnue. Sans elle, la horde ne nous aurait pas laissé la moindre chance à la sortie du labyrinthe souterrain. À peine avait-il prononcé ces paroles que les pelages noirs des chiens avaient ondulé dans la nuit dans un froissement de ruisseau. Le visage blême de l'ange avait flotté pendant quelques secondes sur le fond de ténèbres. Les chauffeurs avaient alors levé la tête vers les vitres du camion de Moram afin d'examiner cette fille qui avait le pouvoir de commander à la horde sans donner de la voix ni esquisser le moindre geste. Mais Khadija était demeurée invisible, soustraite à leur curiosité, à leur perplexité, par le flot d'obscurité inondant la cabine. Puis, ils avaient tapé des pieds pour se réchauffer. Ils s'étaient équipés de leurs pistolets, de leurs fusils, de leurs poignards, et s'étaient préparés à passer de longues heures dans la froidure polaire. Aucun d'eux n'avait songé à regagner sa cabine, à se mettre à l'abri du vent, conscient qu'il s'écroulerait de sommeil sitôt qu'il aurait posé les fesses sur son siège. Ils avaient besoin d'un confort pour rester éveillés, vigilants, prêts à déguerpir à la moindre alerte. Ils s'étaient gardés du froid en vidant les thermos et en faisant les 100 pas sur la neige. Solman était resté en leur compagnie, malgré la douleur insoutenable qui lui vrillait la jambe gauche. Pour la première fois de sa vie, il avait accepté de goûter le kawa. L'amertume du breuvage lui avait déclenché un haut-le-cœur. Puis, passé ce désagrément initial, il s'y était habitué, avait bu d'autres gorgées et s'était senti requinqué, stimulé par le liquide bouillant. Il avait également éprouvé l'effet secondaire du kawa. Un désir brutal, purement physique, était monté en lui avec la rage d'un brasier et l'avait maintenu pendant des heures dans un état d'excitation tel qu'il transpirait à grosses gouttes, qu'il aurait donné n'importe quoi pour soulager la tension inouïe de son sexe. Il avait à plusieurs reprises refoulé d'extrême justesse l'impulsion qui lui commandait de grimper dans la cabine et de se jeter sur Khadija. Il comprenait maintenant pourquoi la grande majorité des chauffeurs entretenaient plusieurs relations amoureuses en même temps. Il avait surpris, lors de l'avant-dernier grand rassemblement, la conversation de deux filles à la langue rieuse qui parlaient des Albins comme d'amants infatigables. La raison en était toute simple. Les Albins étaient les premiers consommateurs de la poudre noire qu'ils fabriquaient et troquaient. Et s'ils interdisaient à leurs femmes et à leurs filles pubères de sortir avant la tombée de la nuit, c'était sans doute parce qu'ils se savaient eux-mêmes incapables de maîtriser leurs pulsions. Il suffisait aux femmes, pour se venger, d'exploiter la situation à rebours, de se glisser clandestinement dans la tente de n'importe quel homme pour s'en faire aussitôt un amant anonyme. Le kawa augmentait de façon sensible la puissance sexuelle. Mais, revers de la médaille, rendait les hommes dépendants de leurs désirs, donc vulnérables. Une faiblesse qui avait entraîné Chuck à renier les sentiments pourtant sincères qu'il éprouvait pour Solman. Il avait choisi, en s'engageant dans les rangs des assesseurs du conseil, de détruire ce qu'il y avait de plus beau en lui, plutôt que d'endurer cet écartèlement permanent, insupportable, entre ses aspirations et ses obsessions. Pendant quelques heures, Solman avait subi la même tyrannie. Et sans la présence des chauffeurs, sans le regard attentionné de Wolf, il ignorait ce qu'il serait advenu de lui. Les paroles de Raima, « Tu es surtout un homme comme les autres », avaient pris un relief saisissant dans cette nuit qui ne voulait pas mourir. Il n'était pas meilleur que Chuck, ou que n'importe quel autre aquariote. Il était soumis, lui aussi, aux exigences despotiques de son corps, de ses glandes, de ses hormones. Il avait accueilli les premières lueurs de l'aube avec un immense soulagement, comme délivré d'une bataille intérieure qu'il n'était pas certain de remporter. « Combien de temps on va encore attendre ?» demanda Moram en refermant sa braguette après s'être soulagé contre un monticule de terre. « Le temps qu'il faudra, » dit Wolf. Le visage du chauffeur, déjà chiffonné par la nuit de veille, se renfrogna un peu plus. « Tu devrais perdre cette foutue manie de répondre aux questions qui ne te sont pas posées, Scorpiote. Dès que tu auras perdu cette manie de poser des questions qui n'ont pas lieu d'être posées, Aquariote, » rétorqua Wolf. Moram serra les poings et décocha un regard venimeux à son vis-à-vis. « Je te propose de régler ça sans attendre. Je n'ai pas d'énergie à perdre avec ce genre de conneries. » Moram pivota sur lui-même pour prendre les autres chauffeurs à témoin. « Vous entendez, vous autres ? Ils refusent de s'expliquer d'homme à homme. Lorsque je n'ai pas d'autre choix que de m'expliquer avec un homme, c'est en général une question de vie ou de mort. » Bien que posée, la voix éraillée de Wolf enfla démesurément dans le silence de l'aube. Moram eut un petit sourire qui se voulait supérieur, mais dans lequel se devinait un début d'appréhension. Même si le chauffeur avait l'avantage de la jeunesse et de la corpulence sur le scorpiote, Solman, assis sur le pare-choc du camion, se rendait compte que les chances n'étaient pas équitables. Les muscles et la vivacité de l'un ne pesaient pas lourd face à la détermination froide de l'autre. L'un dissimulait son manque d'assurance sous les rodomontades. L'autre avait pour lui la certitude de ceux qui ont fait du crime l'activité essentielle de leur vie. Le problème de Moram était maintenant de sortir de cette situation sans perdre la face. « Qui parle de vie ou de mort, Wolf ? Réglons ça au point comme des gens civilisés. Les mains sont des armes redoutables, Moram. Silencieuses, précises. Traîtresse. Je me méfie de moi. Je ne pense pas que je résisterai à la tentation de te briser les vertèbres ou de te broyer le larynx. Or, je sais que notre donneur a de l'amitié pour toi. Restons-en là, s'il te plaît. » Le chauffeur s'engouffra dans la brèche ouverte par son interlocuteur.
« Est-ce que tu veux dire que tu refuses le combat ?»
Les yeux de Wolf lancèrent des éclats menaçants par la fente de son passe-montagne.
« Tu ne crois pas que le sang a déjà assez coulé ?»
Moram hocha la tête, puis chercha l'approbation des aquariotes rassemblés en demi-cercle autour des deux hommes. Ils n'étaient pas dupes, comme en témoignaient leurs regards fuyants et leurs mines embarrassées, mais le chauffeur, en abandonnant aux scorpiotes l'initiative de décliner le combat, avait sauvegardé les apparences. Une trentaine de chiens firent leur réapparition alors que des nuages bas recouvraient le ciel et déposaient une humidité maussade sur les ruines. Babine, croc et poitrail marbrés de sang, poils roussis, et pour certains parsemés de brûlures qui dévoilaient un cuir noirci, boursouflé. Ils se couchèrent dans la neige à une dizaine de pas du camion de tête. « C'est tout ce qui reste de la horde ?» s'étonna un chauffeur. « Et l'ange, il est passé où ?» s'exclama un autre. Ils se tournèrent vers Solman. Mais comme sa vision refusait obstinément de s'éclaircir, qu'ils n'avaient pas de réponse à leur fournir, ce fut à nouveau Wolf qui prit la parole. «
Ils ont fini leur travail. Il n'y a plus de danger. »«
On sait même pas où se niche cette putain de réserve, » grommela Moram.
« Mettons-nous en route et suivons-les, ils nous y conduiront. »«
Est-ce que t'es d'accord avec ça, Donner ?»
Solman se releva et se dirigea en boitant bas vers le marchepied de la cabine.
C'est lui le donneur, pour l'instant.
La neige se mit à tomber à l'instant où le convoi s'ébranlait. Les flocons denses, aussi volumineux que des pommes sauvages, escamotaient les formes sombres et fuyantes des chiens et interdisaient de voir à plus de 10 mètres de distance. Wolf ne s'était pas installé dans la cabine du camion de tête, mais était resté perché sur le marchepied du côté conducteur, accroché au montant du rétroviseur. Malgré le vent, la neige commençait à s'incruster sur la laine de son passe-montagne, sur ses gants et sur les manches de son manteau de cuir. Le sourire lumineux de Khadija avait dispersé comme par enchantement les lambeaux des désirs nauséeux de Solman. Le kawa le maintenait toujours dans un état d'excitation nerveuse qui empêchait son sexe de recouvrer sa flaccidité apaisante. Mais la tension de son esprit était retombée, comme si l'épreuve était désormais loin derrière lui.
« ton Dieu, si cette purée continue, on va perdre les chiens !»
grogna Moram. « Wolf n'a peut-être pas besoin des chiens pour se repérer, » dit Solman.
« Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce scorpiote de malheur ?»
Il t'aurait tué, Moram, et tu le sais. Mais il a choisi de ravaler son orgueil. Tu devrais lui en être reconnaissant. Il roulait au ralenti entre des bâtisses et des reliefs aux allures fantomatiques sous les bourrasques de neige. La Loire se fondait peu à peu dans la blancheur environnante, au point que Moram craignait à tout moment de s'aventurer par mégarde sur son lit et d'entendre les craquements de la glace sous les roues du camion. Il surveillait dans son rétroviseur la progression du véhicule suivant, le seul qu'il lui fut possible d'apercevoir au milieu des flocons.
« Désolé. Je ne peux pas avoir de la reconnaissance pour un type dont j'ai jamais vu le visage, »
lâcha-t-il d'une voix sourde.
« Voir.
Je me demande si la vue n'est pas le problème majeur des hommes. »
Solman avait pensé à lui en prononçant ces paroles. La vue l'avait coupé de Raïma. La vue le projetait dans le jugement extérieur. Le retenait à la surface des choses. Brouillait la vision.
« Comment je conduirais mon camion si j'étais aveugle ?» lança Moram.
« Si on savait voir sans les yeux, on pourrait peut-être se passer des camions. »
La main de Khadija se faufila dans celle de Solman. La vue le coupait aussi de la jeune femme, dont la beauté était un obstacle autant que la laideur de Raïma. La réserve d'essence gisait au fond d'un bunker de béton enseveli, côté fleuve, sous l'imposante colline que dressaient les ruines des bâtiments effondrés. De l'autre côté, les abords de l'abri avaient été dégagés récemment, à en croire les voiles de neige fraîche tendues sur les monticules de terre et de pierre. L'entrée, porte à l'embrasure déchiquetée, mais pas encore assez large pour accueillir les camions, se découpait 5 ou 6 mètres en dessous du niveau du sol, sur un mur convexe bardé de pointes métalliques et criblé de cavités probablement dues aux explosifs. Moram donna trois coups de sirène et immobilisa son véhicule en haut de la large excavation creusée devant l'accès du bunker. Il vit les chiens avaler la pente avec leur agilité coutumière et disparaître l'un après l'autre par la porte.
« Impossible que les camions puissent descendre là-dedans, » dit-il. « Faut qu'on aille se rendre compte à pied. »
Il dégagea un de ses revolvers avant de rejoindre Wolf en bas du marchepied. Main dans la main, Solman et Khadija attendirent quelques instants avant de descendre. La neige tombait à gros flocons, buvant les bruits pour ne laisser percevoir que son crissement feutré. Les autres chauffeurs arrivèrent à tour de rôle, accompagnés de passagers, Aquariot et Schuln, tous armés de fusils, de pistolets et munis de lampes de poche à gaz. Glenn s'était faufilé parmi eux, les yeux rougis par le manque de sommeil, l'inquiétude et le chagrin. Ainsi qu'Ismaïl, qui semblait maintenant accuser le poids des années. Wolf arma son fusil d'assaut, dont il cala la crosse entre son coude et sa hanche. De minuscules stalactites de givre formaient comme des couronnes inversées sous les arcs de ses sourcils. Il consulta Solman du regard, qui d'un clignement de paupières lui confia la direction des opérations. Le Scorpiote répartit la petite troupe en deux groupes. Le premier se chargeant d'explorer le bunker pendant que l'autre assurerait la surveillance des camions.
« Je viens avec vous, » dit Glenn.
« Moi aussi, » fit Ismaïl.
« D'accord, mais vous resterez en arrière. »
La trentaine d'hommes du groupe d'exploration dévalèrent la pente très raide, presque verticale, de l'excavation, avec beaucoup moins d'adresse que les chiens. La plupart d'entre eux achevèrent leur descente sur les fesses ou sur le dos, mais le tapis de neige qui commençait à s'épaissir en contrebas amortit leur dégringolade. Wolf fut le premier à pénétrer dans le bunker, suivi de Moram, de Solman et de Khadija. Ils traversèrent d'abord une pièce nue, éclairée par la lumière du jour, puis une enfilade de salles plus ou moins vastes qui plongeaient peu à peu dans une obscurité totale, oppressante. Une odeur puissante, écœurante, masquait les relents de poudre, de sang et de chiens mouillés qui flottaient dans l'air immobile.
« Ça pue l'essence ici !»
Le chuchotement d'Ismaïl résonna avec force dans le silence sépulcral. Moram se retourna, et du canon de son revolver lui intima l'ordre de se taire. Les rayons des torches glissaient sur un sol écaillé et sur des murs enduits d'une substance noirâtre, brillante, indéfinissable.
« Faut pas y toucher, » murmura Glenn. « C'est le suc des plantes grimpantes. »
« Je ne vois pas de plantes ici, » objecta Moram à voix basse.
« Elles sont au-dessus. Elles mangent le béton et le fer des maisons de l'ancien temps. » « Ce qu'il veut dire, » précisa Ismaïl, « c'est que l'acide qu'elles fabriquent s'infiltre dans la terre et finit par s'écouler sur ses murs. »
« Charmante demeure. »
Au fond de la dernière salle, une large voie d'accès s'enfonçait en tournant dans le ventre de la terre. Une lumière jaune, ténue, vacillante, en éclairait le bas et révélait un pan du revêtement d'une salle souterraine.
« D'où vient cette putain de lumière ?»
souffla Moram.
« Sans doute d'un groupe électrogène, » répondit Ismaïl.
« Un groupe quoi ?»«
Électrogène. Il produit de l'électricité, l'énergie la plus répandue avec l'essence dans l'ancien temps. « Vous n'entendez pas ce bruit de moteur ?»
Un grésillement lointain sous-tendait en effet le silence comme un bourdon grave.
« Qui a pu mettre ce truc en route ?»«
Possible que ce soit nos adversaires. Possible aussi qu'il fonctionne tout seul depuis un siècle. Il dispose de suffisamment d'essence pour tourner encore pendant 1000 ans. »«
Un moteur, ça finit tôt ou tard par tomber en panne. » »«
En principe, oui. »
Mais celui-là a probablement été fabriqué avec des alliages inusables.
La voie, en parfait état, ressemblait à une rampe conçue pour le passage de véhicules. Sans doute ce bunker, tout comme la petite ville fortifiée du massif central, avait servi un temps de point de ralliement et de ravitaillement à l'armée de l'un ou l'autre camp pendant la Troisième Guerre mondiale. Ils découvrirent leur premier cadavre au milieu du deuxième tournant. Un slang, identifiable aux lambeaux de ses vêtements de cuir sertis de pièces métalliques. Il ne restait de son corps qu'une poignée de cheveux, un peu de chair dans les creux de son visage, la moitié du bassin et une jambe mystérieusement dédaignée par les chiens. « Ces kleps sont vraiment tarés, » marmonna Moram.
« Ils font le boulot pour lequel ils ont été conçus, » dit Wolf. « Je ne connais pas de tueur plus efficace. »
« On dirait que t'as de la sympathie pour eux. »
« Sans doute. Parce que eux et moi avons de nombreux points communs, » rétorqua le scorpiote.
Solman épia du coin de l'œil la réaction de Khadija. Si le visage de la jeune femme demeurait impassible, il avait la nette impression que le spectacle de ce corps déchiqueté la reliait aux scènes pénibles implantées dans sa mémoire et ravivait son dégoût des hommes. Un deuxième cadavre, tout aussi mutilé, les attendait en bas de la rampe, puis des dizaines d'autres, jonchant le sol d'une immense salle souterraine éclairée non par un groupe électrogène comme l'avait présumé Ismaïl, mais par quatre, séparés les uns des autres par des intervalles d'une cinquantaine de mètres. Ils alimentaient des rangées d'ampoules qui, insérées dans le plafond, dispensaient une lumière crue et habillaient les murs et le plancher de béton d'un gris maladif. Les chiens, pratiquement au complet, étaient allongés entre les énormes tampons métalliques des cuves enterrées. Les émanations d'essence engendraient de curieuses sensations dans le cerveau et le corps de Solman. Quelque chose comme une ivresse sournoise, nauséeuse.
« C'est une putain de vraie boucherie là-dedans, » gronda Moram.
« La boucherie, c'est nous qui l'aurions subie si les chiens n'avaient pas fait leur travail, » fit Wolf.
« À force de prendre leur défense, tu vas finir par... »
Un grincement prolongé l'interrompit. Il braqua son revolver vers l'endroit d'où avait jailli le bruit. Wolf et tous les autres l'imitèrent dans un concert de cliquetis, sauf Glenn, qui se serra contre Solman, et Ismaïl, qui préféra se tenir légèrement en arrière. Un solbo surgit d'un repli du mur et s'avança dans leur direction. Les volets circulaires, les « narines de la mort », s'étaient déjà ouverts au milieu de son cylindre. La lumière des ampoules se coula sur les canons dégagés de son pistolet automatique et de son lanceur de bombes. Ses chevilles articulées tournaient sur elles-mêmes dans une succession de crissements irritants. Les chiens ne bougeaient pas, comme s'ils avaient compris que l'immobilité était la seule défense face aux soldats mécaniques.
« Bordel, on dirait qu'il en vient d'autres, » souffla Moram.